La revue de presse, c'est votre affaire, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour à tous.
Avec un témoignage pour commencer dans la presse ce matin.
Je ne comprenais pas ce que je foutais là. Moi, je voulais jouer au Playmobil. Sybille avait 8 ans quand sa mère l'a emmenée à un rassemblement de la Manif pour tous. C'était à Lyon en mars 2013. Ainsi commence cette enquête du journal Le Monde qui raconte les souvenirs douloureux, parfois les traumatismes de ces gamines et gamins comptabilisés dans les cortèges où ils entendaient des insultes homophobes sans rien y comprendre. Je retiens le témoignage de Marie. Ma mère nous avait mis bien devant, il fallait qu'on affiche notre famille. Quelques années plus tard, Marie découvre qu'elle est homosexuelle, sa mère fond en larmes en l'apprenant et lui dit d'aller voir un prêtre pour chasser ses désirs impurs. Marie n'est pas allée voir le prêtre. De la haine et de la résistance, on en trouve aussi dans la presse américaine ce matin, avec un personnage qui n'en finit plus de déchaîner les passions. Elle s'appelle Marjorie Taylor Greene, 46 ans, élue du Congrès, signe particulier... Elle est pro-Trump et adepte des pires thèses complotistes, celles notamment du mouvement QAnon. Le Washington Post nous parle de Marjorie Taylor Greene, tout comme le New York Times et CNN, surtout depuis qu'on a appris que l'élue allait siéger à la commission de l'éducation. Oui, elle qui n'avait pas hésité à traiter de lâche un jeune survivant de la tuerie du lycée de Parkland en Floride, 17 morts en 2018, lâche parce qu'il dénonçait la prolifération des armes à feu. La vidéo a refait surface, parmi d'autres, toutes plus sidérantes. Un élu démocrate réclame l'exclusion de Marjorie Taylor Greene, qui porte un masque noir, enfin, elle le porte souvent sous le menton, masque sur lequel on peut lire « Trump a gagné ». Ce n'est ni vrai, ni très hygiénique.
Et puisque vous nous parlez de masques, cher Jean-Philippe, c'est toujours la crise sanitaire qui fait la une en France, évidemment.
Et cela commence par une lettre d'excuse signée Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du JDD, dont la première page, on s'en souvient, avait fait grand bruit il y a pile une semaine, annonçant un reconfinement imminent. Bon, force est de constater ce matin qu'il était moins imminent qu'il ne le paraissait. Le journal a eu tort, reconnaît Hervé Gattegno, mais non, se défend-il, le JDD n'a pas rêvé, encore moins bricolé. Il a voulu informer, dit-il, avec les risques et les imperfections que cela suppose dans cette zone grise du pouvoir. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Emmanuel Macron a-t-il changé d'avis? Disons qu'il s'est forgé en quelques jours une nouvelle conviction, écrit le JDD, sans exclure d'en changer demain. Vous noterez la prudence. Et nous avons d'ailleurs ce matin quelques éléments de réponse avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui nous parle du variant anglais, qui circule plus que jamais, mais de manière moins intense chez nous qu'à l'étranger, visiblement. On pourra peut-être éviter une nouvelle vague, estime le ministre, peut-être toujours la prudence. D'autant que, quelques pages plus loin, une grande professeure d'infectiologie nous prévient « Le confinement reste probable, la question c'est quand ?» C'est Anne-Claude Mérieux qui pose ce constat. Elle comprend que le gouvernement cherche à gagner du temps, c'est légitime. Mais elle évoque aussi les prochaines vacances scolaires, plus propices sans doute à un changement de braquet. On marche sur des œufs. Bon, faut dire que les Français sont quelque peu tendus en ce moment. Réfractaires, précise même le Parisien aujourd'hui en France, parce qu'ils ne sont pas associés aux décisions, analyse le psychiatre Serge Effez, qui constate un sentiment d'infantilisation, un ras-le-bol que tout vienne d'en haut. Et si était venu le temps d'une vraie mobilisation générale, se demandent vos journaux, pour le bien commun, estime Ouest France, en ces temps troublés dans cette société fracturée. Et que dire alors de cette autre colère ce matin dans l'équipe contre ces soi-disant supporters insupportables qui ont saccagé les installations de l'Olympique de Marseille, une explosion de violence contre leur camp. On a beau réfléchir, on ne voit pas vraiment où est la passion, l'amour pour l'OM, écrit le journal, qui nous rappelle au passage quelques fondamentaux. Écoutez bien, le football est un sport, surtout un sport à la fois futile et essentiel, où le concept est que l'on peut perdre ou gagner. L'OM ce matin est en plein chaos, titre La Provence, sur fond noir, oui, là-bas on ne plaisante pas. La Provence qui donne la parole à son actionnaire principal et ancien patron du club, Bernard Tapie. Oui, l'homme a beau mener un tout autre combat contre le cancer, il continue de s'enflammer, parle de comportements inacceptables, mais appelle aussi les actuels dirigeants à se remettre en cause pour mettre fin à tout ce foutoir. Bon, je sais que parmi vous, il y en a qui détestent le foot. Tendance Pierre Desproges, le grand Desproges, qui comparait singe et footballeur. Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour s'abaisser à jouer au football. Mais on peut également citer Albert Camus. Ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au sport que je le dois. Allez, un partout, la balle au centre.
Albert Camus qui avait été gardien de but au début des années 30. Merci Jean-Philippe Ballas. Et à samedi prochain pour la revue de presse.